justement, on va lire la Bible, la parole de Dieu. Et on est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4. Et ce matin, on va être confronté au premier message de Jésus. Donc, à mon avis, ça relève d'une certaine importance. C'est le tout premier message qu'il va donner. Mais quelque chose d'hyper important avant de lire, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avant ? Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe avant la deuxième partie du chapitre 4 ? Comme ça, des idées. La tentation de Jésus par Satan, ouais, juste avant, ça c'est au chapitre 4. D'autres choses ? Voilà, il y a eu le baptême où Dieu confirme que c'est son fils bien-aimé. Waouh, génial. D'autres choses ? Juste au moment où, au moment du baptême, il y a qui d'autre qui est présent au moment de ce baptême ? Jean-Baptiste, ben oui, il ne faut pas l'oublier, Jean-Baptiste. Hein ? Et Jean-Baptiste avait un message, changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. C'était le message de Jean-Baptiste et vous vous souvenez, on avait vu ce que ça voulait dire, changer d'attitude. Hein ? Et important à retenir. Et je vous invite donc à lire la suite. Hein, vous voyez qu'on peut se souvenir de ce qu'on se souvient. Il y a des choses qui nous marquent un peu plus que les autres. Mais on y est arrivé. Donc on est à Matthieu chapitre 4, verset 12. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe. Une nouvelle fois. Territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetait un filet dans le lac. C'était en effet des pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela. Et, aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. On s'arrête ici pour ce matin. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? Le premier message de Jésus est tout à fait le même que celui de Jean-Baptiste. Exactement le même. Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. Jésus n'est pas venu apporter le christianisme, mais la lumière dans les ténèbres de l'humanité. Deux aspects de ce message super simple. Il faut que ça change profondément en chacun, car son royaume se met en place et la condition pour en être, c'est justement cette métamorphose. La question quand on lit ça, c'est est-ce que tu es prêt à le suivre? Alors on va réfléchir sur le sujet, on va même relire le texte pour bien être dedans, on va essayer de regarder plus précisément deux, trois belles choses que ce texte nous révèle. Mais avant, j'aimerais chanter un cantique qui s'impose par rapport à ce que l'on vient de lire. Quelle était la prophétie d'Ésaïe? J'ai donné un petit coup de cloche, mais que disait cette prophétie? Elle parlait de quoi? De la lumière. Eh bien, on va chanter un cantique qui parle de la lumière. Je vous invite à vous lever. On va relire le texte. On a déjà ciblé qu'il y avait le même message. Donc, quand on lit la Bible, un des conseils super simples, c'est de regarder ce qu'il y a avant. Bien souvent, c'est dans le fil, le Saint-Esprit a aidé les auteurs justement à écrire. Et donc, il y a une cohérence. Ce n'est pas juste un patchwork de choses qui seraient décousues. Ce qui est intéressant, avant que je relise, c'est que Matthieu laisse sous silence la première année de ministère de Jésus. Dans cette première année, on le voit dans l'évangile de Jean, il y a un événement qu'on connaît bien, c'est celui de Nicodème, hein, avec un verset connu, Jean 3,16. Et en fait, le Saint-Esprit conduit Matthieu à ne pas écrire cette première année de ministère, certainement pour nous montrer le lien entre le ministère de Jean-Baptiste et le ministère de Jésus. Hein? Jean-Baptiste se fait arrêter et Jésus continue exactement dans la même direction fixée par Dieu. Et c'est intéressant parce que la Bible ne nous fait pas une chronologie de tout ce qui se passe, etc. Hein? Ce n'est pas du journalisme, ce n'est pas un livre d'historien, même s'il y a des éléments qui sont justes, etc. Mais la Bible nous consigne ce qui est nécessaire et suffisant pour connaître Dieu et que nos vies puissent être au diapason, justement, de ce que Dieu aimerait voir naître dans nos vies. Je vais relire le texte. Deuxième astuce quand on lit un texte biblique, le contexte. Deuxième astuce, y a-t-il des répétitions dans le texte ? Des fois, s'il y a des répétitions, c'est que ça insiste pour qu'on fasse bien, bien attention. Hein? Y a-t-il des répétitions dans le texte? Alors, je vais essayer dans la lecture de faire ces répétitions. Hein? Mais en même temps, on va profiter du texte, on ne va pas se centrer sur les répétitions, mais sur ce que le texte nous dit. Voyez cette liaison au verset 12. « Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. » Il quitta Nazareth et vint habiter Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon, de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Sur ceux qui se trouvent dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, son frère André, qui jetait un filet dans le lac. C'était en effet des pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela et, Aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume, deuxième fois, et guérissait toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Alors, on va projeter une petite carte pour comprendre un petit peu où on en est. Voilà. Alors, Nazareth se trouvait grosso modo ici. Et il n'est plus à Nazareth. Voilà. Et il va monter ici. Donc c'est là. Et après, ça se passe au bord du lac. Et vous voyez la région, c'est une région qui est en fait un carrefour de la Mésopotamie. Parce que là, on va vers Damas, la Syrie, tout ce qui est la Mésopotamie. On n'est pas loin du bord. Et ici, c'était une région qui était sous contrôle des religieux, qui avait force de police. D'ailleurs, Jésus se fera arrêter par ces forces de police-là. Et ici, ils n'avaient pas la même influence. Donc, c'est pour ça qu'il est ici. La Décapole est plutôt une région grecque, helléniste. Hein. Et là, c'était une population qui était assez entremêlée, pas que de juifs, mais de personnes qui. Donc, son message touche à la fois les juifs et plein d'autres personnes. Et vous voyez, quand il est question il venait de la Syrie, vous voyez d'où ça peut venir, il venait de Jérusalem, vous voyez, il venait de la Décapole, il venait de la Galilée pour venir l'influence du message de Jésus. Extraordinaire, hein? Donc c'est un grand carrefour et on voit bien. Le souci de Dieu, c'est que la lumière luise, pas uniquement pour le peuple d'Israël, mais sur toute l'humanité. Hein. Et on voit qu'il est question de personne ici. Hein, et l'intérêt, c'est que toute l'humanité puisse être touchée par la lumière de Dieu. Et cette prophétie nous montre que c'était déjà dans l'idée de Dieu dès l'Ancien Testament. Et c'est le même message que Jean-Baptiste, métamorphose intérieure, plus être centré sur soi, mais orienté vers Dieu, hein, et le royaume des cieux. Et vous avez vu, il y avait cette répétition deux fois, à l'inverse, le royaume des cieux, du royaume des ténèbres, comme il est dit dans la prophétie d'Ésaïe. Et c'est beau de voir que Dieu n'a pas été dépassé par la déchéance de l'homme, par le péché, hein, mais qu'il avait une solution, que cette solution, il la déroule dans l'histoire. Hein. Avec la même intention, avec le même message, que ce soit celui de Jean-Baptiste ou que ce soit celui de Jésus. Jésus s'entoure de disciples. Et si on fait le lien avec l'évangile de Jean, hein, on voit qu'ils avaient déjà reconnu Pierre, Jacques, Jean, André, ils avaient déjà reconnu Jésus comme le Messie. Ils étaient retournés à leur métier. Ils vivaient de la pêche. C'était une entreprise familiale, on voit pour Jacques et Jean. Hein. Et Pierre était certainement aussi à son compte comme ça. Jésus les appelle. Hein. C'est Jésus qui est à l'initiative. Ce qui est d'ailleurs, pas dans les habitudes. En général, quand quelqu'un voulait suivre comme disciple quelqu'un, un maître, c'était lui qui le choisissait. Et là, on voit, c'est l'inverse. C'est Jésus qui va choisir les disciples pour être pêcheur d'hommes. Alors, c'est un clin d'œil, bien évidemment. Comme les quatre étaient des pêcheurs, Jésus leur dit, bon, ben, vous laissez vos filets, maintenant, on va faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et en y réfléchissant bien, ces mêmes pêcheurs, plusieurs fois ils vont retourner au filet parce qu'il fallait bien vivre, etc. Les évangiles ne nous parlent pas de pêche un petit peu spéciale, hein, de pêche miraculeuse. Eh bien, en regardant bien, il y a deux récits de pêche miraculeuse. Hein. On va pas les lire parce que ce serait un peu long. Mais après, ces pêcheurs, ils vont devenir des pêcheurs d'hommes. Et on a dans les Actes un récit de deux pêches, entre guillemets, où il y a des conversions d'une manière spectaculaire, 3000 et 5000. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Certainement, Jésus a permis cela pour leur dire, vous vous souvenez, j'ai dit que je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je suis autant capable de faire une pêche miraculeuse avec des poissons que de faire quelque chose aussi d'extraordinaire avec des personnes. Alors, Jésus les appelle et ils disent, bon, attends, on revient, on va aller regarder dans notre banque les prévisions et des choses comme ça. Non. Deux fois, on a eu la même réponse, aussitôt. Aussitôt. Et ça représente quand même quelque chose, hein, parce que donc, c'était des entrepreneurs, ils laissent l'entreprise directement. Laisser son père, c'était quelque chose qui ne se faisait jamais, en plus, hein, pour Jacques et Jean. On sait que Pierre était marié, par exemple. Il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait pas d'AVS, il n'y avait pas d'ORP hein, à l'époque. Donc, c'était vraiment le saut dans le vide et pas de filet de secours. Ils suivent Jésus, et suivre Jésus, c'est, le terme suivre, c'est presque un synonyme de disciple. Suivre quelqu'un, ça voulait dire être disciple. Et ça impliquait le respect, l'obéissance, des services à rendre, un attachement à l'enseignement du maître. Et on l'a vu, la sphère d'influence de Jésus à ce moment-là a tourné tout autour du lac. Hein. La Galilée, vous vous souvenez, c'était là au-dessus, la Décapole, Jérusalem, la Judée, hein, et l'autre côté du Jourdain. Et la manière dont Jésus va annoncer son enseignement avec la plus grande simplicité. C'était naturellement qu'on écoutait l'enseignement à l'époque dans les synagogues. Jésus n'invente pas quelque chose d'improbable, il va dans les synagogues et parle du royaume. Son message, le royaume des cieux est proche, repentez-vous. Hein ? Le royaume de la lumière, donc pas une nouvelle religion, mais il nous parle du royaume des cieux. Et ce message a une conséquence dans la vie de celui qui l'adopte et qui le vit réellement. Et Jésus montre l'exemple, alors avec les spécificités qui étaient les siennes, mais il va guérir toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Et vous avez vu, ça touche le monde occulte, guérison dans le monde occulte, dans le monde psychique, psychiatrique, et dans le domaine on pourrait dire physique. Tous les domaines sont touchés par la guérison de Jésus. Et c'est intéressant dans ce texte parce que certains qui voulaient dire « Non, non, mais Jésus, quand il chasse des démons, les personnes étaient certainement touchées par une maladie psychiatrique, ce n'était pas des choses spirituelles. » Eh bien là, dès la première guérison, il y a le distinguo qui est fait entre le monde spirituel et le monde psychique, psychiatrique. Le message du royaume s'accompagne toujours des effets de faire du bien. Jésus va le démontrer. Le message du royaume s'accompagne toujours de faire du bien autour de soi. Mais il y a ici quelque chose en plus pour Jésus. Il donne son enseignement et par les miracles qu'il faisait, il crédibilise son enseignement en disant « Je suis Dieu ». Et le message que vous venez d'entendre est aussi celui de Dieu. Et on connaît cet épisode avec le paralytique. Il lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Tout le monde le regarde comme ça. Qui c'est qui peut dire « Les péchés sont pardonnés » Et Jésus donc, va lui dire « Lève-toi et marche ». Et plus tard dira « Lequel est plus facile de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Et on voit que le but des guérisons de Jésus, c'était de crédibiliser ce qu'il disait. Je suis autant Dieu quand je fais quelque chose d'impossible que quand je parle. C'est exactement la même chose. Quelque chose d'intéressant, vous avez vu au verset 25 que de grandes foules le suivent. de la Galilée, là où il était, Décapole, c'est un petit peu plus loin, Jérusalem encore un petit peu plus loin, toute la Judée encore un petit peu plus loin, et l'autre Jourdain encore un peu plus, beaucoup plus loin. Ça ne vous rappelle pas quelque chose dans Actes 1.8, ça ? Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à... Et on a ce cercle concentrique qui, comme un caillou qu'on jette dans un lac, et ça fait des ondes différentes, et là, on a exactement la même chose. Vous voyez la cohérence de la parole de Dieu ? Dieu ne fait pas la révolution toutes les trois pages, il continue toujours de faire de la même manière. Et Dieu ne va pas demander quelque chose qu'il n'ait pas déjà lui démontré avant. Jésus prêche le royaume des cieux. Prêche le royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux ? C'est là où Dieu est avec son peuple. Le royaume est établi par Jésus et centré sur sa personne, son enseignement, sur ce qu'il fait, sur son œuvre. Et le royaume désigne d'abord une réalité spirituelle ici, dans le cœur, dans la vie de ceux qui suivent Jésus et qui suivent Dieu par Jésus. Et Jésus le disait et le montrait dans son enseignement. On l'a vu en le lisant, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues et proclamait quoi ? La bonne nouvelle du royaume. Donc, ça se passe, c'est quelque chose de spirituel, mais qui se manifeste aussi au travers de la vie des disciples, une manifestation de la vie intérieure qui va vers l'extérieur, auprès des personnes, auprès du reste de la création. Jésus le montrait comment ? Eh bien, en faisant du bien à son prochain. Et il guérissait, et on a lu tout ce passage-là. Alors, le royaume est déjà présent, c'est Jésus qui l'inaugure, lors de sa première venue, et il est possible de rejoindre ce royaume. Comment ? Repentez-vous. Repentez-vous. Et repentez-vous, tout simplement, c'est on n'est plus centré sur soi, mais on reconnaît notre besoin de Dieu au travers de Jésus, parce que nous sommes pécheurs. Et l'accomplissement de ce royaume, quand est-ce que ça va se passer ? Au deuxième retour de Jésus. Et là, malheureusement, il ne sera plus possible de rentrer dans ce royaume. Il sera trop tard. Jésus va le dire, il va le dire, le rabâcher dans l'évangile de Matthieu, on aura l'occasion d'y venir. Il y a des paraboles qui parlent que de ça. Préparez-vous, je vais revenir. Après, ce sera fini. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait retenir de ce texte ? Vous savez qu'on s'arrête toujours en se posant quatre questions. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu ? Sur les hommes ? Qu'est-ce que ça me pousse à faire ? Et qu'est-ce que je pourrais transmettre ? Déjà, la première chose que ce texte montre clairement, que Dieu veut que la lumière vienne au milieu des ténèbres. Là, il ne s'agit pas de la création de la terre, mais ça y donne écho quand même. Les premiers mots de la Bible parlent de quoi ? Que la lumière est venue aussi au milieu des ténèbres. La cohérence de Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là, il s'agit de personne. Et son plan de sauvetage ne démarre pas juste au moment où Jésus arrive, mais on voit qu'il démarre dès le début de l'Ancien Testament. Et c'est ce que nous souligne cette trame, c'est l'autre chose qu'on peut apprendre de Dieu, c'est qu'il est cohérent et il a une idée, sauver les hommes, et il n'y a qu'un plan. Et c'est un petit peu comme si on prenait une fusée spatiale. Vous savez que... Alors maintenant, ça change un peu, il y a des fusées spatiales qui montent et qui ont la possibilité de redescendre, mais beaucoup de fusées spatiales, quand elle démarre, elle lâche un premier étage, elle lâche un deuxième étage, et après il y a la capsule qui arrive, pourquoi pas sur la Lune. Et bien, c'est un petit peu le message du royaume, c'est un petit peu cette fusée où le plus gros étage serait déjà parti, ce serait l'Ancien Testament, le deuxième étage serait parti, ce serait Jean-Baptiste, et maintenant ça continue avec Jésus. Dieu est déterminé et résolu pour que la lumière brille. Là où la lumière est acceptée, là où Jésus est adopté, ça s'appelle son royaume. Jésus ne parle jamais de chrétiens. Une fois d'église, il parle tout le temps du royaume des cieux. Tout le reste de l'évangile de Matthieu ne parle que de ça. On va, dans les pages qui suivent, regarder si vous avez une bonne Bible. Il va être question de comment on vit dans ce royaume. Ça s'appelle le sermon sur la montagne. C'est quoi ce royaume? Comment on y vit? Quelles sont les règles de ce royaume? C'est nouveau un petit peu. Eh bien, Jésus va leur dire. C'est ça, les règles du royaume des cieux. Et toutes, presque toutes les paraboles commencent. Le royaume des cieux ressemble à... Et on a une parabole. Il ne parle que de ça dans l'Évangile. Et il est accessible à toute l'humanité. C'était le plan prévu depuis toujours. Et c'est possible par le changement de vie par Jésus. Alors, qu'est-ce que j'apprends des hommes? Les hommes ont besoin de l'éclairage de Jésus. S'ils restent dans les ténèbres, leur vie est sans vision, ils vivent d'une manière empirique, ils manquent tout ce qu'il y a quand on n'a pas la lumière. Ce serait assez d'ailleurs intéressant de nous mettre dans le noir, là, totalement, et de descendre, juste de descendre les escaliers. On tomberait, se prendrait une chaise, peut-être qu'on roulerait dans les escaliers. Voilà. Vous voyez la différence quand il n'y a pas la lumière? L'objectif de Jésus, c'est le deuxième point qu'on peut relever ici, c'était pas de faire de Pierre, Jacques, Jean, André des chrétiens, mais il avait pour objectif des disciples. Et la première caractéristique du disciple, c'est qu'il suit Jésus. Il ne suit pas une église, il ne suit pas une théologie, il ne suit pas une association, il ne suit pas une confession, mais il suit le Fils de Dieu fait homme, Jésus. Les disciples, quand il les a appelés, étaient-ils convertis? Là, dans ce texte? Ah, pourtant, il les appelle comme disciples. Est-ce qu'ils étaient convertis? Certainement pas. La croix n'a pas eu lieu. Alors, ils ne sont pas convertis dans le sens que nous, on connaît, mais il n'y avait pas eu la croix. Le Saint-Esprit n'avait pas été donné. Il y avait même parmi les disciples un certain Judas, non? Pas l'exemple du converti idéal. Jésus les appelle pour être des disciples, pas pour être des convertis. Jésus les a de suite mis en mode « vous allez être des disciples ». Il n'a pas attendu qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, il a dit « bon alors maintenant on va commencer les choses sérieuses, vous allez être des disciples ». D'entrée, l'ambition de Jésus, c'était de faire des disciples, pas des convertis. Dans le royaume des cieux, l'objectif n'est pas de faire des croyants, de faire des adeptes ou des convertis. Et après, ils sont arrivés, ils sont convertis, puis ça s'arrête. L'objectif du royaume, c'est de faire des disciples. Et tout l'évangile, on va lire, vous allez voir, tout l'évangile de Matthieu parle que de ça. Et Jésus a bien fait parce que ses disciples ont permis que l'évangile arrive jusqu'à nous. Des personnes comme nous qui ont mis la priorité de suivre Jésus. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que des fois, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'ambition spirituelle parce que le regard du croyant s'arrête à la conversion. Voilà, je suis converti. J'ai mon passeport éternel en poche. Pour les plus interpellés, Ben, ils se mobiliseront pour que d'autres aient le passeport éternel en poche. Mais regardez ce que dit Jésus à la fin de l'évangile de Matthieu, tout à la fin. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des convertis, des chrétiens, non, des disciples. Début de l'évangile, Jésus fait des disciples. À la fin, il dit, faites des disciples. Peut-être que le chrétien cultive des fois de l'insatisfaction parce que justement, il est en mode, je me suis arrêté au moment de la conversion. Hein? Un petit peu comme si le chrétien attendait dans une gare le départ pour l'éternité, que les années s'écoulent. De temps en temps, il va au guichet pour savoir si c'est bien sûr qu'il a le ticket pour l'éternité, parce qu'à rien faire, il doute. Hein? Donc dimanche après dimanche, il ira au guichet. Hein? Pour les plus téméraires, ils en feront rentrer dans la gare. Mais le disciple, tout comme Jésus, est disciple en n'importe quelle situation. Il n'est pas dans la gare. Il est partout. Et Jésus était partout, dans des endroits improbables. Et son ambition était de faire des disciples. Bien sûr, il y a la conversion qui est dedans, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire des disciples qui font d'autres disciples. Et c'est comme ça que c'est venu jusqu'à nous le message de la parole de Dieu. Alors forcément, en constatant cela, ça nous pousse au troisième point. Qu'est-ce que je vais faire cette semaine de ce texte? De la stratégie de Jésus qui a marché. Suis-je dans une disposition de disciple en mouvement ou suis-je un chrétien avec mon passeport dans la gare? Peut-être c'est la réflexion qu'il faut se poser cette semaine. Cette semaine, je vais réfléchir à cela. Est-ce que je suis un disciple en mouvement qui cherche à faire d'autres disciples? Pas des adeptes, pas des croyants, pas des convertis, mais à faire des disciples qui eux-mêmes feront d'autres disciples. Ou est-ce que je suis un chrétien dans la gare avec mon passeport éternel? Être un disciple, c'est simple. Aimer Dieu, son prochain, comme soi-même d'ailleurs, et être dans la transmission, une transmission qui donne l'autonomie aux autres pour transmettre à nouveau. C'est pas très compliqué, hein? Alors, on peut le faire au sein de la famille. On peut être dans cette disposition au sein de la famille. Ça peut être l'objectif de l'éducation. On peut le faire avec son conjoint. On peut le faire avec des personnes qui nous sont proches, avec qui on est en relation. Est-ce que, quand je vois quelqu'un, je vois un futur disciple? Voilà la question de la semaine. Cette semaine, je vais réfléchir à cela. Et peut-être que je vais me dire, cette semaine, je vais prier pour une personne pour qu'elle puisse être dans cette dynamique et peut-être mettre une priorité justement avec elle pour passer du temps relationnel, du temps avec des conversations spirituelles aussi. Dernier point, qu'est-ce que je pourrais transmettre? Alors, si c'est à d'autres personnes qui sont attachées à Jésus, peut-être que ce serait deux mots à transmettre. Le mot royaume et le mot disciple. Le mot royaume et le mot disciple, avec leur signification bien sûr. Si c'est à quelqu'un qui doit être un futur disciple, lui dire peut-être qu'il y a un royaume où la lumière brille et elle s'appelle Jésus. Et ça pourrait peut-être être le début d'une conversation spirituelle. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est simple, mais tellement précieuse. Merci pour ta grandeur, ta cohérence. Seigneur, donne-moi de ne pas me satisfaire de ce que tu m'as acquis, mais de goûter à ta vie comme toi tu nous l'as montré. Seigneur, aide-moi à avoir un regard ambitieux de personnes qui pourraient être tes disciples. Amen.